Alors, bienvenue au Champ Libre. Merci d'être là. Et nous sommes ravis d'accueillir Lisette Lombé, qui va nous présenter cinq livres. Ces livres que vous allez pouvoir retrouver à la bibliothèque, si vous le souhaitez, ou les acheter directement au forum. Voilà, je vous laisse la parole. Merci.
Bonjour. Par où commencer ? D'abord, vous dire que je suis très contente d'être là. Je suis arrivée hier avec ma partenaire de jeu, Chloé Dutrèfle, qui est là-bas, avec qui on sera sur scène tout à l'heure pour notre spectacle Brûler, danser. Et on se disait bien chanceuse, en fait, de pouvoir arriver la veille et de pouvoir être du côté spectatrice, en fait, et de pouvoir assister. Là, on vient d'assister à la lecture de Sabine Garrigue sur la question du deuil. Hier, la lecture musicale de Blandine Rinkel, aussi avec de la danse et avec de la musique. Voilà, donc je vous parle de cet endroit de gratitude, de pouvoir exercer mon métier à cet endroit-là aussi. On est entouré de livres, donc je vous parle aussi d'un endroit d'extrême humilité, à savoir pas assez d'une vie pour s'attaquer à la moitié de la moitié de la moitié de la moitié des rayonnages qui nous entourent. Donc ça nous met à un endroit de grande humilité et en même temps de soif de connaissance. Voilà, on se souhaite d'être dans cette curiosité au long cours. Je dois vous partager mon amour de 5 livres. Ce n'est pas facile de choisir dans nos bibliothèques, dans nos panthéons, dans notre matrimoine, des lectures saillantes parce qu'il y en a beaucoup. Tout à l'heure, on se disait avec ma collègue Chloé Dutrèfle que les livres nous arrivent... au bon moment, en tout cas, j'ai cette idée du livre. Là, en Belgique, il y a un livre qui s'appelle « Cohabitante légale », une linguiste, Laurence Rosier, qui évoque le deuil de son compagnon qui est décédé d'un cancer de l'estomac pendant le confinement, et où ce livre était un peu là, traînant, comme si, et puis tout d'un coup, c'est comme si c'était le bon moment, que le livre avait l'air d'être écrit pour nous, qui répond à nos questions. Je crois en cette magie du livre qui tombe dans la main, et je crois aussi en... les recommandations bienveillantes de personnes qui ont lu des livres et qui se disent, ils sont un endroit aussi du cœur de partage, qui se disent, ah, ça c'est pour toi. Donc pas les mauvais cadeaux de Noël ou très dans la prescription et on connaît pas la personne, on connaît pas le livre et on offre un cadeau de Noël parce qu'il y a eu des prix, mais vraiment le cadeau d'amis, passeurs, passeuses qui ont lu avec attention un livre et qui se connectent à nous et se disent, ça c'est un livre qui va lui faire du bien, c'est un livre qui va le dépasser. Donc je ne connais pas votre rapport au livre. Le mien, dans les questions, quand on me pose cette question, qu'est-ce qui fait que justement il y a des livres qui sont ici dans ces cinq-là, c'est pour moi une question de déplacement. J'ai besoin d'avoir un livre, c'est moins sur... après j'ai des lectures aussi de plage, des lectures de divertissement, mais j'ai besoin que le livre m'envoie un choc, au-delà du fait d'avoir l'impression qu'il répond à des questions pour le moment qui me travaille, j'ai besoin d'avoir un choc. Souvent, d'abord, je pense, ils ne sont pas épais, ceux qui sont là. Moi, je sais que les briques me tombent un peu des mains. Donc, je ne sais pas si c'est la densité de la langue poétique ou même la scène slam où c'est 3 minutes maximum le texte. Il y a quelque chose dans la fulgurance, moi, qui me parle dans les textes. Donc, par exemple, le dernier livre de Cécile Coulon, le titre, je ne sais plus, j'ai un problème avec les titres aussi, j'ai un problème avec les noms, les titres. En tout cas, son dernier livre, quand elle me l'a... comment ? Voilà, la langue, donc, vous allez être mis à contribution aussi. quand elle me l'a tendue à la sortie d'une radio qu'elle a fait en Belgique, j'ai été étonnée parce que c'est vrai que j'avais encore cette représentation du roman et donc quand j'ai vu qu'il était si fin, j'ai retrouvé sa densité de langue poétique. Voilà, donc ça m'a mis en motivation de lire ce livre, par ailleurs encensé par le public, la critique et les libraires. Voilà, j'hésitais, ils sont là, à les prendre de manière aléatoire ou à les prendre dans l'ordre de lecture ou dans l'ordre inverse de lecture, le plus ancien lié à l'adolescence ou au jeune âge ou le plus récent ici, de début de semaine. Je ne sais pas, je l'avais mis dans la liste avant de... parce que je savais que ça allait être un bon livre, c'est mon éditrice jeunesse de Côte Édition qui me l'a mis. Donc je ne sais pas, je vais partir loin alors. Le cercle des poètes disparus, Ce livre, je peux rien vous dire sur l'auteur en fait, parce que donc je viens à vous avec de manière parcellaire, donc je vais me respecter à cet endroit. Donc je vous ai dit, j'ai un problème avec les noms, j'ai un problème avec pouvoir rendre les maisons d'édition, de pouvoir, je serais incapable en fait sur des romans et j'en lis peu, je lis plus de la poésie et des essais, je serais incapable de vous décrire avec précision les paysages, vous dire ça se passe à telle époque. Des fois dans les interviews on nous demande quel personnage aimeriez-vous être, enfin je suis bien incapable de mon cerveau ne fonctionne pas comme ça, et donc je décidais de baisser ma garde et pour me mettre à l'aise de partir de là. Donc c'est très parcellaire, c'est plutôt un rapport au livre. Même quand je lis un recueil de poésie, parfois je souligne une phrase ou je corne une page et je me dis ah j'aurais aimé écrire cette phrase tellement elle est puissante, et parfois c'est un recueil va rester pour un mot ou pour une phrase ou pour une métaphore. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ici je connais pas l'auteur, mon agenda, je me suis dit je lâche, je vais pas aller sur chacun des livres me redocumenter, je vais rester avec la pépite que ce livre a été à un moment donné du parcours. Évidemment, j'avais surtout vu le film, mais j'ai quand même repris ce livre parce que quand on le relit, il y a des passages qui sont tels quels, et parce que comme beaucoup de mes collègues enseignants, profs de français, c'est quelque chose qui le livre et le film m'ont fait entrer dans le métier d'enseignante avec cette image du professeur Keating, c'est-à-dire quelqu'un qui peut entrer et révolutionner une classe par un esprit frondeur, par une audace, par une créativité, qui va sortir des clous, qui va sortir de la classe. Et pour moi, dans ce livre, il y a ça. Il y a un amour fou du métier d'enseignant, mais un peu hors clou. Il y a cette entrée en poésie, c'est-à-dire aussi cette jeunesse, avec cette vie ouverte, grande ouverte devant soi, cette entrée dans le langage de la poésie, ce rapport poétique au monde, cette invitation à être à cet endroit-là bien précis de ce langage qui est une telle densité, à la force de la jeunesse, l'éphémérité de la vie, tout ça, toute cette pulsion, toute cette pulsation. Mais c'est aussi un livre qui a été important pour moi parce que c'est le livre de la fantasmatique. Je parle du métier d'enseignant parce que je suis arrivée dans le métier d'enseignant avec ça, cette idée-là de révolution. Et évidemment, il y a un grand principe de réalité qui fait que ne dure dans le métier que les personnes qui sont hyper ancrées, qui n'attendent pas d'être aimées de leurs élèves, peut-être juste respectées, et qu'après, c'est le grand fracas. On en parlait hier en rigolant, en disant ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire la révolution dans sa classe et qu'on a des élèves qui disent juste j'en ai absolument rien à foutre, l'homme bête, ton cours en fait. Voilà. Donc c'est le début d'un scénario écrit de burn-out. Voilà. Mais à l'intérieur, il y a, voilà, c'est comme on l'a vu, ce qui est beau aussi, c'est que moi j'ai une fratrie, j'ai une sœur qui a 18 mois en moins que moi et un frère qui a été plus voyageur, donc on est moins liés. Mais avec ma sœur, ce qui est beau aussi, c'est d'avoir des souvenirs, de revenir au texte, d'avoir lu, d'avoir fait la même lecture et de pouvoir se dire « Ah, tu te souviens dans ce passage-là » mais qui est lié ici avec le film aussi. Et par exemple, à un moment donné, ils partent là en forêt et voilà, il y a cette petite sérénade et j'ai vu le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir. Et en fait, il chante, il danse comme ça. Et ma sœur se souvenait de ça aussi. Donc j'aime bien aussi ces livres-films qui lient aussi la fratrie sur un endroit commun. Voilà ce que je peux vous dire de ce livre-là. Appel, invitation aussi à célébrer la vie. On vient de se le dire là avec Sabine Garrigue, puisque celui qui interprétait ça, comment s'appelle-t-il encore? J'oublie, Monsieur Keating. Robbie Williams est décédé aujourd'hui parce que dans le film il y a aussi des acteurs aussi qui sont décédés aujourd'hui, et parce que aussi comment les livres nous accompagnent, on les lit jeunes et puis ils vieillissent avec nous en fait. Les livres qu'on a lus il y a 20 ans ou même plus là. Ça nous renvoie à ça, comment le livre lui s'inscrit dans le temps, peut être relu par une autre génération, et comment nous voilà, on avance, comment on peut aussi réouvrir sa bibliothèque et voilà, transmettre ça à d'autres. Voilà, donc j'ai choisi ce livre-là parce qu'il est inscrit dans les lectures de jeunesse, dans les lectures d'exaltation, dans les lectures de lyrisme aussi, dans les lectures qui parlent de poésie, qui ne sont pas des poèmes, mais qui parlent de poésie, qui contournent et qui reviennent donner. J'aime bien les livres aussi qui donnent le goût d'entrer en poésie. Voilà. Après, je sais qu'on aura du temps si on, voilà, pour échanger, comme on est un petit groupe, si vous avez envie de... Alors, je remonte dans les lectures. J'ai devant moi, je ne connais pas cette édition, parce que moi, j'ai l'édition de ma mère, en fait, de la bibliothèque de ma mère. Donc, un livre vraiment tout écorné. Il y a La Cavale, L'Astragale, c'est les deux que j'identifie dans la bibliothèque de ma mère. Albertine Sarrazin, L'Astragale. Dans l'édition de ma mère, il est plus petit. Il est vraiment, de nouveau, je sors les livres qui sont pas très très épais. La Cavale, par contre, c'est vraiment plus épais. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un podcast, alors je ne sais plus si c'est sur France Culture ou France Inter, sur Albertine Sarrazin, où il y a eu, sur les réseaux sociaux, mais des milliers de partages, un engouement, et je lisais tous les commentaires en dessous de personnes de la génération de ma mère, qui disaient, moi, ça a été une autrice phare dans notre jeunesse, ça a été une lecture lecture scolaire aussi. Je lisais dans une critique que les livres avaient été distribués aussi dans des pompes à essence et qu'il y avait eu un engouement. Voilà. Alors moi, j'ai découvert Albertine Sarrazin jeune, comme un espèce de coup de foudre. Et c'est, alors pas sur le cercle des poètes disparus, mais là, clairement sur elle, c'est Lola Lafont disait ça. Elle disait, c'est des rencontres avec une langue, avec une écriture. Albertine Sarrazin, c'est ça. Moi, qui fais du slam aujourd'hui, c'est une langue très concise. Elle a comme un souffle slam aussi, avec des phrases courtes. Après, il y a un grand lyrisme. Il y a des entrechoquements entre quelque chose de très frontal, de très dur, de très réaliste, et puis tout d'un coup, des grandes envolées lyriques de l'exaltation. C'est un texte de prison, et c'est pour remis dans le contexte de l'époque des années 60, c'est complètement inédit, c'est une langue déliée comme ça, frontale, c'est quelque chose qui secoue. Moi, ça m'avait secoué quand je l'avais lu. Mais ça m'avait secoué aussi parce qu'il y avait ce mélange, donc, c'est-à-dire pas que la noirceur, il y avait une forme de lumière, pas que la frontalité, il y avait comme ça des grandes poches. C'est comme une écriture frénétique, une écriture. On sent que c'est quand on voit les écrits, on voit que c'est comme quelque chose, une possession, quelque chose qui écrit en écriture automatique. Et donc, du coup, parfois, ça. Quand on voit les correspondances, parfois ça tourne sur soi-même, il y a un tourbillon, donc on est plus dans le souffle, dans les mots, et moins dans le narratif, mais néanmoins il y a quelque chose qui est là, il y a une espèce de fulgurance, et puis l'âge aussi, quand on décède si jeune, avant sa trentaine, à la lisière en fait, il y a quelque chose qui, alors on relit après, hein, mais il y a quelque chose qui rend compact toute l'œuvre et de se dire... autant d'écrits, autant de correspondances en si peu de temps, on doit relire l'œuvre du coup avec une espèce de fulgurance, comme une urgence. Alors, évidemment, les gens ne savent pas à quel moment ils partent, mais nous, on les relit dans ce sens-là. Évidemment, c'est des textes d'amour. Alors aujourd'hui, Albertine Sarrazin, de se dire dans les textes de prison, si vous lisez des textes, par exemple, d'Angela Davis en prison, moi qui viens de la scène militante et féministe, je vais être désarçonnée par Albertine Sarrazin parce qu'il n'y a pas d'engagement politique. Moi, j'ai dû travailler en Belgique pour les Midis de la Poésie. On a, voilà, on a réenregistré parce que c'est vraiment une lecture fondatrice pour moi dans la langue, dans l'audace. Elle a aussi quelques textes, pas moins, mais en poésie aussi. Bon, moi, ça me désarçonne aujourd'hui comme militante parce qu'il me manque quelque chose à cet endroit-là de critique du milieu carcéral, mais ça vient d'une autre manière. Ça vient parce qu'on a une jeune femme, en fait, qui assume totalement, quand elle va dans les premières fois devant le juge, pour des menus larcins, et pas que, puisqu'il y a quand même une vendeuse là qui a failli rester, qui se prend. Donc, je veux dire, elle assume ses conneries, et elle n'a aucun regret. Et elle le dit, j'ai pas de regret. À l'intérieur même de la prison, c'est très, elle observe ce qui se passe, mais d'une manière un peu voilà, elle a une soif d'évasion, elle n'a pas une soif de retournement du grand système carcéral, elle a une soif d'évasion, de sortir de là. Et puis il y a cette chose très romanesque, l'astragale. Il y a une copine danseuse pour le moment qui parlait de ça, hein. Vous voyez, elle est ici. Au niveau de la cheville, elle disait ça parce que c'était une hantise de se péter un os du pied. Il y a cette fameuse, vous voyez l'entrée, je vais quand même juste vous lire la première ligne. Alors, si j'arrive. Voilà, cette fameuse entrée de texte. Le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Et donc, c'est de sauter, boum, et de dire ça. Le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Et puis, il y a cette vie qui rejoint presque la fiction, c'est-à-dire de s'échapper de cette prison et puis d'avoir celui qui deviendra son amoureux, là, qui la récupère, qui va la mettre au vert, la cacher dans la planque, etc. Et puis il y a cet amour qui va naître. Là aussi, ça me désarçonne parce qu'il y a un différentiel d'âge, parce qu'elle l'attend d'abord, parce que ça démarre plutôt chez elle que chez lui, parce qu'il a encore d'autres femmes dans sa vie, etc. Et en même temps, c'est magnifique cet amour. Voilà, qui va durer, en fait. Ils vont chacun être en prison à des moments différents de leur vie, et puis ils vont se marier là, en prison, puis ils vont sortir. Et ce qui, je trouve touchant aussi, c'est le peu de temps après la sortie, en fait. Il y a la vie littéraire qui arrive, l'écrivaine, tout ça est déjà là, elle écrit depuis très longtemps. Mais le fait d'entrer en littérature, d'avoir les deux textes, le coup d'éditeur de Pauvert qui sort en même temps les deux textes, recalé là-bas, mais là, ça sort, et puis un succès de dingue au niveau public, et puis de lire les correspondances en parallèle, tout ce qui l'ennuie dans la promotion, cette espèce de célébrité qui arrive d'un coup, puis de se voir en vitrine, enfin, le tourbillon et cette vie très serrée, en fait, finalement, cette opération où, et alors, à partir de l'astragale, tous ces problèmes de santé qui vont découler, toute cette vie cachée, et puis après, tous ces problèmes de santé qui font que la carcasse, comme elle dit, va se déglinguer à une vitesse VV', et donc, pour moi, c'est à la fois l'écriture, la fulgurance qui est là, que je relis aussi par la fulgurance de la vie. Et comment dire Et puis après, ce que Julien Sarrazin aussi en fera, c'est-à-dire d'interpeller le médical en disant voilà quelqu'un qui part à l'anesthésie et tout n'est pas mis en place, et voilà que je perds le grand amour de ma vie, et donc va faire jurisprudence sur des actes médicaux. Donc voilà aussi ce qu'on fait de la mort de quelqu'un, et comment, moi, ce qui... Enfin, je vous invite à lire l'astragale, hein. Vous allez être pris dans un souffle, parce qu'en fait, on est comme dans la cavale, on est dedans, c'est fort. Moi, je suis obligée de me décaler un peu, parce que je vous ai dit, il me manque une dimension politique, il y a aussi un vocabulaire d'époque, comme elle n'est pas politisée, déconstruite, bah, certains moments, des manières de parler des étrangers, des femmes étrangères en prison, etc. Ouf, là, je retrouve un vocabulaire un peu injurieux, et je me dis, alors ça me questionne aussi sur l'amour qu'on peut avoir pour une autrice, et puis une femme, et c'est pas encore l'autrice, et une narratrice, c'est pas encore voilà, tout ce travail de fiction, d'autofiction, voilà. Donc, quand on m'a demandé de travailler sur elle pour le podcast Les Parleuses, j'ai tourné longtemps avant de revenir à elle. Et puis je me suis dit, je vais quand même m'emparer d'Albertine Sarrazin parce que pour la langue, pour l'audace, pour la révolution esthétique, et d'aller voir comment ça travaille aussi cette question, comme on dit aujourd'hui, homme artiste, ben là ici femme autrice. Je vous fais des jaillissements comme ça. Après, peut-être, je peux revenir et relier les textes. Et voilà, là, en plus, c'est l'air espiègle. Il y a un truc dans l'écriture de « je m'en laisse pas compter ». Voilà. Qu'on se souhaite aussi. Je ne sais plus dans quel ordre, mais je vais reprendre d'Anthony Passeron « Les enfants endormis ». Un roman... Là aussi, c'est bizarre, je l'ai lu vite, mais j'ai lu presque d'une traite, et peut-être trop vite. Des fois, on lit des livres trop vite. je ne sais pas si vous avez cette sensation-là aussi, les rentrées littéraires, il y a une montagne de livres, il y a une PAL, les pales, les piles à lire. C'est énorme, moi je dois me restreindre pour le moment, je n'achète plus rien tant que ce truc ne descend pas ici. En plus, quand on a plein d'amis contemporaines qui écrivent, on reçoit aussi des livres en plus de ceux qu'on achète. Enfin, c'est sans fin, c'est infernal, avec une rentrée littéraire en septembre, avec une autre qui débarque en janvier, on n'a toujours pas terminé les autres livres. Donc voilà. Donc parfois on lit un peu trop vite, mais quand même, ce que j'ai aimé dans Les Enfants Endormis, c'est de nouveau, c'est sur le dispositif, c'est-à-dire qu'on suit cette famille, peut-être que quelqu'un le résumerait mieux que moi, de province, mais on la suit avec ce frère dans la famille qui a ce VIH, ce virus. Et en parallèle, on a l'histoire médicale, en fait. On a l'histoire médicale, on a toute cette recherche scientifique autour de la vaccination, on a tous les conflits entre les différents, entre la France, entre les États-Unis, toute la guerre entre les laboratoires. On a aussi le début, la montée des mouvements contestataires, Act Up, etc. Et donc, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est ce dispositif-là, c'est-à-dire les deux temporalités qui sont complètement... Tout à l'heure, avec Sabine Gary, on parlait de ça, de comment les attentats de 2015 au Bataclan, elle avait sa temporalité intime, le deuil familial, et puis le grand collectif, la mémoire collective, qui se réempare et qui doit digérer, et donc, quelque part, la catastrophe, appartient à tout le monde. Et comment elle s'était sentie un peu dépossédée. Donc c'est deux temporalités différentes, deux profondeurs, des strates différentes. Ce que j'aime dans Les Enfants Endormis, c'est ça, c'est-à-dire de suivre cette famille avec ses grands non-dits, avec ses grands silences, avec cet enfant là qu'on suit, qui va, donc la petite, qui va par transmission avoir aussi ce virus, et de voir comment ça se déglingue, comment ça s'attriste, comment la maladie s'empare et fait exploser les schémas, les normes. Et puis là, la temporalité plus longue, où en fait, même comme lectrice, on a envie que ça s'accélère, en fait, que ça, parce que de l'autre côté, on voit le corps, le vrai corps, en fait, qui à une vitesse VV prime va être attrapé, mangé par la maladie. Et puis de l'autre côté, on voit les guéguerres entre les laboratoires, on se dit pourquoi, on voit le temps perdu, on voit les brevets, etc., le temps de la science, qui est un temps très long. Et on est, moi, je me suis retrouvée chaque fois dans l'aller-retour entre les chapitres, avec une espèce, mais c'est bien fait, hein, du coup, avec une espèce d'impatience. On voudrait que ça aille vite, que ça aille, qu'on trouve la solution pour aider les malades. Et on sait que c'est pas le cas, et que là-bas, de ce côté-là, enfin, je fais sur ma gauche parce que le chapitre arrivait chaque fois avant, que là-bas, ben, on a comme une traînée de mort ici. Et puis là, il y a un chaud froid entre les cœurs battants de ce côté-ci et toute la tristesse et toutes les émotions qui traversent, et de l'autre côté, quelque chose de plus froid, de plus clinique, des chiffres, un réel et implacable de l'autre côté. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce livre-là aussi, si vous avez envie d'être entre deux. Enfin, si les chocs de temporalité, ou si les chocs et les frottements entre comme ça deux réels, si ça vous parle, voilà, vraiment, c'est. Du coup, je vais rebondir avec l'autre qui est ici, Henrietta Lacks. Parce que c'est aussi scientifique, en fait. C'est chez Côte Édition, c'est une maison, là je peux en parler, c'est une maison d'édition belge pour la jeunesse, et qui travaille beaucoup sur des romans graphiques, il y a à chaque fois du texte et du dessin. Et ici, on a ce qui est beau, c'est comment, à partir de cette femme qui a un cancer aussi, de l'utérus. On est à une époque où il y a encore la ségrégation aux États-Unis. C'est une femme noire qui a 4-5 enfants, et qui, en fait, à partir de son cancer à elle, ils vont prélever des cellules, et ces cellules, en fait, ils s'aperçoivent qu'elles, donc sans son consentement, c'est ça le cœur de ce roman graphique, c'est qu'on a une période où on ne demande pas le consentement des patients, mais encore moins des personnes racisées. C'est l'époque, alors ce qui est beau aussi, c'est exactement comme dans Les Enfants Endormis, c'est qu'il y a une partie très sensible, il y a beaucoup de questionnements, c'est comme... dans les films de Terrence Malick, où il y a une espèce de voix off, et il y a comme ça des questions existentielles, les personnages, je sais pas, ils se baladent, ils mettent leurs mains dans l'herbe, etc. Il y a des questions existentielles, là aussi. Il y a des questions existentielles. Il y a c'est tout en bleu, et puis il y a des taches de rouge chaque fois. Je vais essayer de trouver. C'est tout en bleu, mais il y a chaque fois une tache de rouge à l'intérieur du dessin. Et il y a des questions existentielles. Les questions existentielles, ça porte sur justement ça. Puisqu'on suit une jeune fille qui se destine à des études scientifiques et qui va, dans un magazine, va retrouver un article sur cette femme à qui on a prélevé des cellules et qui va se demander, ben voilà, quel est le sens de la science? Est-ce qu'on peut faire de la science sans respecter l'humanité profonde des gens? Qui va se demander, est-ce que c'est métier-là que je vais faire à partir de là. Et à partir de ces cellules, des cellules souches, il y a eu plein de... Comme ils se sont aperçus qu'elles se... Anormalement, elles se développaient de manière anormale. Ça a été le point de départ à partir de ces cellules-là de plein de découvertes aussi scientifiques qui ont aidé pour d'autres choses. Et donc, c'est ça, de voir qu'à partir de quelqu'un qui a été dépossédé, et d'ailleurs, la famille n'a rien demandé après, si ce n'est qu'on reconnaisse qu'à partir de la mort de cette femme, ça a aidé la science, en fait. C'est ça, j'ai trouvé ça. Et alors, on voit le parallèle de nouveau entre la vie de cette femme, pauvre, qu'on suit avec les enfants et tout l'arsenal scientifique qui, dans la balance, en fait, comme ça aide beaucoup plus de gens. Qu'est-ce que ça vaut une vie par rapport à toutes les découvertes scientifiques ? Enfin, il y a plein de questionnement éthique, en fait. Ça parle de ça, la naissance de la bioéthique. Ça parle des expérimentations sur les personnes racisées aux États-Unis pour lutter contre la syphilis. Enfin, il y a toutes sortes... Donc, c'est, voilà. Donc, non seulement on apprend des choses, moi, j'ai appris plein de choses aussi. Ça m'a rappelé qu'étant jeune, quand j'étais au lycée, j'avais pris, moi, comme option science-maths. Donc, j'étais en science-maths avant d'aller à l'université. J'ai voulu devenir biologiste parmi les métiers. Donc voilà, peut-être c'est ça le goût encore quand même pour les sciences. Et puis aussi en tant que poète, ça nous rappelle l'endroit du corps aussi, l'endroit simplement de... Parfois, c'est les nuées, c'est les mots, etc. Ici, on est dans les organes quand même, dans la vie, dans ce qu'elle a de plus trivial, mais au sens très noble du terme. J'aime bien ça aussi, d'être à un moment donné... accroché par les organes et de se dire la mécanique quand même magnifique du corps humain. Parce que nous, on parle de cœur, le cœur battant du texte, le cœur des poètes, de vibration, de souffle, etc. Mais il y a quand même l'organe cœur aussi. Voilà. Donc, c'est super. Alors, l'autrice a été aidée aussi par une adolescente. Donc, il y a un double regard et on sent... qu'il y a quelque chose qui est écrit à hauteur d'adolescente, puisque le personnage est une adolescente. Il y a quelque chose de très juste, en fait. Mais il y a aussi toute une partie scientifique. Donc voilà, il faut être... si vous aimez de nouveau ce genre de confrontation de deux langues, en fait, à l'intérieur d'un ouvrage de deux langues, c'est très beau aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Et ce livre, ça m'a été offert par mon éditrice au salon du livre de Montreuil, Jeunesse, où elle me disait, tu vas voir, ça va être... Alors ça, c'est beau aussi d'avoir... moi, je suis des libraires. Donc, comme auteur, on a des librairies amies, des lieux. Moi, j'ai ça à Bruxelles. J'ai une librairie qui me suit depuis les débuts, une librairie féministe. Il y a comme ça quelques lieux qui nous suivent. Et donc, moi, je me connecte à ces librairies, les coups de cœur des libraires. Bon, on fonce, les yeux fermés sur certaines libraires. Et là, mon éditrice aussi, c'est les yeux fermés sur certains livres. Donc ça, c'est beau aussi de se laisser porter. Et là, j'ai dans les mains Le consentement de Vanessa Springora. C'est marrant, sur le livre de poche, il est marqué « Le livre à l'origine du film ». Voilà. Bon, je n'ai pas vu le film. Il y a du bon et du moins bon. Voilà. Il y a du très bon et il y a des réserves. Mais, donc moi, je vais juste parler de... Voilà. C'est pas le plus... j'ai repris ce texte parce que ce n'est pas le plus... si je devais vraiment vous dire le dernier, dans les derniers qui m'ont évidemment Triste Tigre de Naishino, je pense, si j'avais dû vraiment en prendre un, comme comme on dit en slam, une claque, c'est-à-dire un livre qui nous fait tourner sur nous-mêmes, qui nous déplace de manière fulgurante. J'aurais pris celui-là, mais j'ai repris celui-là aussi dans une interview sur la Radio Nova. Ils m'ont demandé un peu le même type d'exercice et j'avais pris celui-là en me disant quand même, c'est comment certains livres ouvrent des brèches pour d'autres écritures. Et que quand, c'est La Familia Grande, hein, en même temps, presque quand même, il y a eu toute une série de textes comme ça avec le confinement. Donc, il n'est pas écrit, en tout cas, moi, je l'ai lu tardivement. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'interviews de Vanessa Springora, et dans les interviews, parfois j'ai ça, mais j'ai ça aussi dans des lectures, comme si je savais déjà tout du livre. C'est pas vrai du tout, mais c'est une sensation. Donc, comme j'avais vu beaucoup de choses, je me disais, tiens, je vais peut-être pas découvrir plus que ça. Et en fait, le livre, je l'avais, mais j'étais pas rentrée dedans. Peut-être parce que j'avais entendu beaucoup de choses, du métatexte sur, enfin, voilà. Puis tout d'un coup, voilà, le livre arrive et c'est une évidence. Et ce que je sens, c'est que dans une forme de... Alors, c'est de nouveau... C'est les mêmes termes que j'utilise pour Albertine Sarrazin, c'est-à-dire qu'il y a un mélange, il y a quelque chose de très chirurgical dans la langue, les phrases sont très courtes, ça a l'air comme ça, presque une écriture blanche, on pourrait se dire... Mais c'est ça le style de cette écriture blanche, c'est-à-dire d'avoir un choix esthétique sur une langue extrêmement accessible et frontale, avec des incises comme ça, mais qui c'est un truc implacable, ça donne une espèce de, comme des petits coups de poing, on est obligé, on est aspiré par cette langue-là, et en même temps une forme de pudeur. Donc c'est à la fois une frontalité, en même temps une forme de pudeur, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et en même temps qui glacent, justement, parce que voilà, il y a un truc glaçant, mais bien nécessaire. Et ce livre qui questionne à la fin justement cette lisière entre l'homme, l'artiste, entre voyez ce qu'on vit dans cette période-là et ce qu'on acceptait il y a 10, 20, 30, 40 ans, on l'accepte plus maintenant, ou voilà, ça ne passe plus. Comment ce livre n'est pas juste un livre, comment il y a certaines fois des livres vont devenir leviers sociétaux, c'est tellement puissant que ça sort du champ littéraire et qu'on rentre dans le champ sociétal, qu'il y a un avant, un après, ça a ouvert ça, c'est une fracture de dire non, on ne peut plus un écrivain voilà, qui c'est ce qu'elle dit, elle dit aujourd'hui on dirait un délinquant sexuel, on dirait pas un écrivain encensé. Donc voilà, et je pense que il y a comme eu des ondes de choc comme ça sur certains sujets. Là, Neshino arrive avec la question de l'inceste. Là, on est sur la question du consentement. Moi, j'ai 45 ans. Quand j'étais jeune, cette question ne se posait absolument pas. Ce mot n'était absolument pas dans le champ des relations, du relationnel. Et donc, je pense que beaucoup de femmes de mon âge, et encore plus de la génération de ma mère, si on relit aujourd'hui toutes nos relations, etc., on devra quand même regarder ça... À partir de ce mot consentement, on sera quand même bien saisi. J'ai une amie slameuse qui a fait un texte il y a quelques semaines à la Maison de la Poésie de Namur et qui a un texte qui s'appelle Passer à la casserole. C'est un peu. C'est limite un peu comique parce qu'en fait, elle liste vraiment et elle dit hein, quand le match de foot est gagné, passer à la casserole, mais quand le match de foot est perdu, passer à la casserole. Et il y a un truc comme ça qui commence à descendre parce que c'est et dans la joie et dans la non-joie que, de toute façon, c'est passé à la casserole. Et le texte est comme ça, assez redoutable. Et il fait un peu froid aussi dans le dos, mais cette expression passée à la casserole, cette question du viol conjugal, cette question ici des rapports de domination avec toute l'aura que peut avoir un écrivain, voilà, pour moi, c'est fondateur parce que la génération, les élèves que moi je vois en classe aujourd'hui, quand on va dans les classes, on a des dispositifs pour créer des espaces d'écriture pour les jeunes. Quand j'observe les textes qui sortent aujourd'hui et ce qui est urgence pour cette jeunesse, la question du consentement revient, la question du harcèlement de rue arrive, et que moi, à mon époque, ça n'était pas, voilà, ça n'était pas questionné. Donc j'aime bien ce texte de Vanessa Springora. J'ai eu un jour, juste pour l'anecdote, elle m'a téléphoné chez moi. J'étais chez moi, j'ai reçu un appel et parce que justement elle lançait la collection Les Fauteuses de Troubles chez Julliard, dont elle est directrice de collection. Voilà, elle sondait pour voir elle connaissait le travail et elle voulait me dire que Ovidie allait lancer La chair étrise. J'aurais pu le mettre aussi dedans dans les lectures. Et donc on discutait de ça. On a discuté, les enfants endormis, on a discuté de ce que son mari est un scientifique justement qui travaille sur la question du VIH. Et on discutait aussi du consentement. Je lui disais ce que je viens de vous dire là, que je l'avais lu tardivement, mais que je pensais que c'était quelque chose qui avait ouvert une brèche d'écriture pour d'autres et qui amenait tout d'un coup un sujet qu'on n'avait pas spécialement envie de regarder parce que ça touchait le grand nombre. Voilà. Et c'était, c'est beau aussi des... Moi, je suis à un endroit... comment dire, par rapport au livre, quand on entre en littérature, moi je suis entrée tard, hein, j'ai fait ma première scène slam à 36 ans, de se sentir aussi appartenir à comme une communauté. Là, il y a Laura Vasquez qui intervient en ce moment, voilà, on se voit, on se dit bonjour, c'est-à-dire c'est aussi, je pense, contrairement à Albertine Sarrazin, à l'époque d'Albertine Sarrazin, maintenant ici celle de Vanessa Springora, dans les livres que moi je pourrais choisir vraiment massivement que je lis maintenant, c'est de voir comment il y a eu la création d'une sororité entre les écrivaines, entre les autrices, comment les unes lisent les autres, comment ça sort un peu d'une forme de concurrence. En poésie, Michel Metel, qui a un certain âge, qui a participé aussi à l'anthologie Les lettres aux jeunes poétesses, elle disait, moi, elle a 70, elle disait de ma génération, chacune se vivait dans son coin, un peu en regardant les autres, comme ça. Aujourd'hui, il y a un nombre... incalculable de collectifs, d'autrices, de projets collectifs, d'attention à l'écriture de l'autre, un espèce de matrimoine aussi qui est fulgurant. On n'a pas assez de toutes nos heures pour lire toutes les paroles de femmes, toutes les femmes qui étaient invisibilisées qui reviennent dans des anthologies, enfin tout ce qui est remis à l'ordre du jour, plus toutes les écritures émergentes. On n'a pas assez. Les essais, il y en a plein. Il y a des nouvelles collections qui se créent et en même temps une espèce d'émulation, d'effervescence, de vases communicants entre les écritures qui irriguent la pensée, qui complexifient la pensée. Donc c'est pour ça, quand on m'a demandé de choisir plutôt des romans, je disais, moi je lis plutôt des essais pour le moment parce que ça répond les bons pères de famille, j'oublie moi les noms des fois, Rose Lamy. Voilà, Rose Lamy, les bons pères de famille, il y a des tas de livres. Je ne sais pas à combien de temps je suis. On est bien. Ah oui, voilà, j'avais proposé, normalement on ne fait pas échanger, mais j'avais proposé qu'on échange quand même. Voilà, et alors je souffre d'une maladie, et franchement la personne qui trouvera ça, je ne sais pas, ce nom, je ne sais pas, je lui offre un resto. C'est-à-dire, c'est quand, il y a un mot pour tout dans la langue française. Je fais juste une parenthèse, je vous redis ça juste après, mais on parlait de ça. J'écris pour un magazine en Belgique, un peu lifestyle, voilà, c'est une chronique. Et je disais ça que dans les psychotests, quand moi j'étais jeune, on était soit extraverti ou soit introverti. Et là, il y a ce mot ambiverti, que moi je ne connaissais pas. Et je trouvais ça admirable. Et quand je le disais à ma fille, elle m'a dit, ma fille elle a 11 ans, elle dit, bah oui, c'est logique quoi. Et en fait, c'est génial d'avoir ça, c'est-à-dire que ce n'est pas ni l'un ni l'autre, c'est que dans certaines situations on est plus ça, puis dans d'autres on est là, donc c'est extrêmement complexe, et j'observe ça, une jeunesse qui est dans une complexité que je n'ai pas connue. C'est ça aussi que je cherche dans les nouvelles lectures, là, c'est comment ça se complexifie, comment ça se déconstruit à une vitesse de dingue, donc il faut quand même s'accrocher et rester extrêmement bienveillant aussi pour les personnes qui ne se déconstruisent pas à cette vitesse-là. Ça, pour moi, c'est mon enjeu aujourd'hui. Voilà, je ferme cette parenthèse, donc des nouveaux mots. Et là, c'est un mot que je cherche, qui fait que quand on vous demande quel est le dernier livre que tu as lu, quel est le dernier film que tu as vu, etc., c'est un trou noir. Pourtant, on lit tous les jours. Enfin, moi, je lis tous les jours. C'est un trou noir. Donc, ça, je suis sûre que ça porte un nom. C'est une maladie. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, la personne qui trouvera ça un jour, voilà. Je ne sais pas répondre à cette question. Il faut que je sois devant ma bibliothèque. Une fois, c'était hyper confortable. J'étais à quelque chose comme ici, mais j'avais pris partie de ma. Donc, tous les livres étaient étalés devant moi. Donc, c'était génial. Je pouvais voir les maisons d'édition, voir les titres, voir les autrices, et j'ai passé une heure magnifique. Parce que d'habitude, je suis en panique. Je suis arrivée ici en complète panique, en plus la Belgique, la France, etc. en me disant, voilà, je devais présenter 5 livres hier. Je pense que j'avais oublié que je devais présenter 5 livres. Je croyais que je devais présenter mon roman. Donc voilà, j'étais un peu en panique. J'ai retrouvé les titres après. Et puis je me suis dit, grâce à ma collègue ici présente, d'y aller vraiment de manière parcellaire, mais de manière authentique, et de me dire, OK, je prends les livres. Ils ont été hyper importants pour moi à un moment donné, déplaçants ou fondateurs. Et donc, parole du cœur, quoi.
Est-ce que quelqu'un a des questions ? Une question ? Alors, je me lance. Moi, j'ai une petite question. C'est hors sujet. Sur votre dernier livre qui s'appelle Eunice, je voulais juste savoir si c'était un petit clin d'œil à Nina Simone.
Alors, oui, le vrai prénom de Nina Simone, c'est Eunice. Mais je n'ai pas choisi ce prénom. Alors, donc. Ce qui est beau, c'est quand on construit des personnages, ça c'est beau de trouver le prénom d'un personnage, on tourne et puis une fois, tout d'un coup, c'est ça. C'est, y a une évidence. Donc il y avait cette porte d'entrée-là, parce que Nina Simone, hormis l'aspect musical, l'aspect artistique, etc., moi j'ai une fille qui s'appelle Simone, donc, et que j'ai voulu appeler Eunice en fait. Mais il faut être deux pour choisir un prénom, donc ça n'a pas été Eunice, ça a été Simone, comme ses deux arrière-grand-mères, paternelles. Donc ça tombait bien, ça faisait aussi Simone de Beauvoir, ça faisait tout. Voilà. Ça se mettait bien. Mais c'est plutôt pour Eunice Barber, qui est une heptathlonienne qui a gagné championnat du monde, Jeux olympiques françaises, grande, enfin que je voyais quand j'étais jeune, femme noire, avec une petite boucle d'oreille dans le nez, très impressionnante, très physique, très queer avant l'heure en fait. Voilà, c'est plus Eunice Barber, comme l'héroïne Eunice fait de l'athlétisme, c'était plus un clin d'œil à l'athlète que voilà. Mais bon, il y a des strates et des histoires sur les. Voilà.
Quelqu'un d'autre ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai bientôt 75 ans, donc j'ai vécu un autre monde, évidemment, mais j'apprécie beaucoup la manière dont vous en parlez, de ces mondes qui disparaissent les uns après les autres et qui ne disparaissent pas toujours complètement, parce qu'il y a quand même des bonnes choses dans ces mondes, mais qui ouvrent d'autres pistes et à une allure un peu vertigineuse, j'ai retenu aussi ce que vous avez dit, une allure un peu vertigineuse, et dans tous les domaines d'ailleurs, pas que la littérature. Et ma question par rapport à ça, ou l'échange, c'était un peu de dire, est-ce que justement, vous qui êtes enseignante, vous avez un peu quelques fils conducteurs par rapport à cette jeunesse, j'ai aussi des petits-enfants, qui doit aussi, malgré tout, avoir énormément d'interrogations et peu de réponses.
Alors, je ne suis plus enseignante. Je l'ai été pendant 7 ans, mais c'est comme des vies. Mais je retourne dans les écoles chaque semaine. Moi, je vais utiliser le mot de nouveau humilité. Alors, on n'est pas dans la même relation si on est dans une classe, dans une relation pédagogique avec les jeunes ou... Et moi, c'est d'avoir été aux deux endroits, humilité. J'ai 3 enfants aussi, et je me sens bien démunie des fois. Parce que j'aime la poésie qui n'aime pas, parce que j'aime le français qui n'aime pas, parce que on peut s'entendre dire qu'on est. On peut flamboyer d'un côté et s'entendre dire qu'on est ringard de l'autre côté, parce que, comme tous les ados, enfin, comme moi, je demandais à mon père qui me dépose 2-3 mètres après. Après le lycée, surtout pas qu'il s'arrête devant... Voilà, c'était la grande honte, c'est d'être à cet endroit-là, et c'est bien normal, puisque comme ado, on n'a pas envie d'être sur... On s'en fout du travail de ses parents, on s'en fout, en fait. Donc c'est quand même cet endroit-là. Donc c'est un endroit qui rend bien humble. Moi, ce que je me dis juste, j'observe mes enfants, je vois mes 2 fils qui sont à la salle de muscu, c'est des sportifs, ils sont en plus du foot, ils vont à la salle de muscu quasi tous les jours... Donc je sens une virilité qui est en train de se construire et je sens une limite à mon éducation parce qu'il y a tellement d'endroits de socialisation que je ne suis qu'un des endroits de socialisation et je voudrais encore bien injecter des valeurs féministes, voilà, qu'en fait à un moment donné il y a une barrière qui fait que je n'ai pas accès à la vie intime de mes enfants, ni aux relations, ni les endroits où ils socialisent, et qu'il faut lâcher quelque chose à cet endroit-là. Mais par contre, ce que je sens, c'est que la possibilité de dialogue. Après, je pense qu'il y a des familles qui dialoguaient bien, mais moi, je n'ai pas connu cet endroit de dialogue. Je n'ai pas connu des parents qui s'asseyaient et qui pouvaient pleurer et me dire, voilà, je pleure parce que mon travail est très compliqué, ou je pleure parce que j'ai perdu quelqu'un, ou ça ne va pas, en fait. Je relève presque de la santé mentale, je vais craquer. Je n'ai pas connu un endroit de dialogue comme ça, ou un endroit de... où on pouvait parler aussi, et alors on n'a pas à savoir tout sur ses parents, évidemment, mais et je me dis, c'est, quand j'ai des copines qui sont comme ça en interrogation, je me dis rien que de ça, de créer un espace où on peut parler de sentiments, où on peut parler de la possibilité d'être qui on est. Alors ça, moi, je trouve que c'est le plus spectaculaire dans ce qui se passe. Il y a le vertige de l'accélération, parce que moi, j'ai des amis qui me disent, écoute, voilà, je vais mégenrer des gens, mais parce que ça va trop vite pour moi, la non-binarité, les questions trans, ça va trop vite pour moi. J'ai des gens qui vont me dire, je ne suis pas raciste, mais j'arrive plus à être à l'aise avec des gens, je demande de quelle origine t'es, ça crée des problèmes, on marche sur des œufs en permanence, et voilà. Et moi, je suis à un endroit apaisé là aujourd'hui en me disant, j'entends ça. J'entends, et c'est ça que je disais, l'enjeu de dialogue, c'est de... Il y a des gens qui se déconstruisent très vite, et d'autres moins. Il y a des gens qui sont dans des zones grises, et dans des zones de clarté. Comment on dialogue encore à ça? Alors, je n'ai pas avec les gens, par exemple, qui me considéraient comme un insecte à écraser, parce qu'ils seraient sur un continuum du racisme. Donc, je discute plus. Là-bas, je discute plus, je n'injecte plus d'énergie. Mais par contre, sur une grande zone grise à laquelle j'appartiens aussi avec mes ambivalences et mes contradictions. Donc moi, ce que je me dis, c'est le dialogue. C'est vraiment de pouvoir redire à... Quand je vais dans les classes, j'ai des textes, par exemple, sur la question de l'homosexualité, le harcèlement scolaire, le suicide, c'est pouvoir de redire... Je ne voudrais jamais qu'un de mes enfants soit à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il ne sache pas que je suis dans un dialogue tel que quoi qu'il se passe à l'école, ça ne nécessitera jamais qu'un de mes enfants se suicide. Et je ne pourrais rien y faire, en fait, parce qu'on le voit bien qu'il y a plein de jeunes qui se suicident et malgré un amour inconditionnel de leurs parents. Donc, je sens que mon endroit, c'est celui-là. C'est de pouvoir redire à mes enfants, mais plus largement à une jeunesse, de travailler dans le sens d'un respect de l'intégrité physique et psychique. Comment est-ce qu'on fait pour faire cet endroit sécurisant? Comment est-ce qu'on fait pour... Enfin voilà, je suis un peu décousue parce que pour moi, c'est nodal, c'est central, cet endroit-là. Par exemple, pour le moment, on travaille sur un outil. Quand vous allez sur une scène slam, il y a un grand silence, un grand respect des textes. Donc ce qu'on applaudit, ce n'est pas la qualité du texte, c'est le courage à venir dire du texte, de se mettre debout, de prendre un micro. Et avec mes collègues dans notre collectif, on se dit, mais comment est-ce qu'on retrouve cette qualité d'écoute dans une classe? C'est-à-dire l'absence de jugement, on applaudit la personne, etc. Donc on travaille là-dessus, je n'ai pas la réponse pour le moment, mais je voudrais être à cet endroit de comment on peut être respecté dans, voilà, dans la question du respect. Et je trouve que ce que la jeunesse nous apprend aujourd'hui, en nous obligeant à ouvrir, c'est de dire, mais... de sortir de la dichotomie, je pense, sur les questions de non-binarité. Donc nous, ça nous demande un travail de dingue parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Moi, je n'ai pas été éduquée au polyamour et j'entends que ça existe. Je n'ai pas été éduquée aux transidentités, je n'ai pas été éduquée à la non-binarité. Donc nous, sur l'autre riz, ça nous demande un travail de dingue pour rester dans une sphère de respect. Mais c'est beau, c'est magnifique. Et concrètement, bah, par exemple, si vous voyez sur les questions de protection hygiénique, je prends cet exemple, c'est pour ça que je fais chaque fois ce geste. Moi, ce que j'observe dans le monde aujourd'hui, dans la jeunesse, c'est qu'avant, c'était peut-être ça, et je vois le panel aujourd'hui de trucs qui n'existent. Je ne te posais même pas la question de la cup. Donc, la même chose sur les questions de contraception. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça. Il y a un éventail qui est en train de s'ouvrir sur plein de questions et sur, homme-femme. Et tout d'un coup, moi, je vois sur toutes les questions comme un éventail qui s'ouvre avec le vertige beau que ça est d'avoir un espace comme ça de liberté et surtout une dépathologisation. Parce qu'en fait, quand on prend LGBTQIA+, c'est des revendications, c'est des étiquettes, on peut dire parfois, qui étouffent, mais surtout qui dépathologisent, qui disent, mais asexuel, en fait, il n'y a pas de problème à être asexuel. Deux asexuels qui se rencontrent, c'est génial. On se roule, on se frotte, et le sexe, ma foi, il est là-bas derrière. Il n'y a pas de problème. Donc c'est beau le truc qui est en train, l'arc-en-ciel là, qui s'ouvre, parce qu'en fait, ça dépathologise aussi. Et donc, c'est pas simple pour les adultes, mais moi, et j'y arrive pas moi-même dans ma propre famille. Voilà, si je parle, par exemple, je vais dire, parler d'asexualité avec ma fille, mon fils va dire, ouais, mais bon, vous parlez de ça comme si ça concernait tout le monde, c'est quand même minoritaire. Et je sens une résistance, et là, je me dis, ah, mais en même temps, comme on dialogue calmement, je sens que ça distille un truc qui est l'inverse. Du grand silence, de la grande chape de plomb, de la honte, de la culpabilité, de la menace de si tu n'es pas comme je suis ou comme c'est dehors, tu dégages. Voilà, si je peux me mettre à un endroit qui m'évite ça, qui évite ça à mes enfants, et d'être ambassadrice de ça aussi pour plus large. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore une question ? Bon, ben merci Lisette Lombé d'avoir partagé ce moment avec nous, c'était très agréable. Et on peut vous retrouver à 20h à l'auditorium pour brûler danser avec Chloé Dutrèfle. Voilà, merci d'être venue.